Il a reçu en septembre dernier la médaille d'or du CNRS pour ses travaux dans le domaine de la biologie cellulaire. Ses découvertes majeures ont permis de comprendre les mécanismes qui permettent aux cellules de se diviser. L'homme est également à l'origine de l'expédition Tara qui a cartographié la biodiversité des océans. Et grâce à lui, c'est tout l'univers de la biologie des cellules qui s'est révélé sous un nouveau jour. Éric Carcenti, vous êtes notre chercheur d'avenir aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Après une première partie avec vous en tête à tête, vous allez nous présenter deux jeunes chercheurs avec lesquels vous travaillez. Qui sont-ils ?
Alors, Lionel Guidi qui va être là, qui est un océanographe qui travaille à Villefranche et qui donc s'est intéressé à des aspects à la fois d'océanographie et de biologie en fait en général en tarocéen. Et Sébastien Collin qui travaille à Roscoff, à la station de biologie marine de Roscoff. Et lui s'intéresse plus aux questions d'imagerie, donc de développer des nouvelles méthodes d'imagerie en trois dimensions. Qui sont basés un petit peu sur ce qui a été découvert en biologie cellulaire au cours des 20 dernières années.
Vos travaux sont complémentaires, on va se retrouver dans un instant pour découvrir justement vous, ce que vous avez découvert à l'intérieur des cellules et puis ce qui se trame dans ce domaine dans les années à venir. C'est une émission qui est réalisée par Céline Hila, elle a été préparée par Lucie Sarfati. Elle est comme chaque semaine en partenariat avec nos confrères du Point.
Mathieu Vidard sur France Inter.
Nathalie Dessène et Jaoui, Elena Noguera et Liat Cohen, ensemble pour les eaux de Mars. Éric Arsenti, vous êtes donc notre chercheur d'avenir aujourd'hui sur France Inter pour pénétrer avec vous dans le mécanisme des cellules et puis voguer. On va prendre l'air également, ça va nous faire du bien sur les océans du monde. Dans la deuxième partie donc de l'émission, on fera connaissance avec Lionel Guidi et Sébastien Collin, deux jeunes chercheurs avec lesquels vous travaillez. Comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite de la biologie des cellules, Éric Arsenti?
J'ai toujours été intéressé par, c'est bizarre en fait, à la fois par la biologie et la physique. Ouais. Et quand j'étais jeune, j'avais envie de comprendre un petit peu l'origine, les principes de l'organisation du vivant.
Ça, c'est drôle quand même, non?
Ouais, de la morphogenèse et tout ça. Je me suis posé des questions sur les formes, sur. C'est assez marrant.
Tout jeune, ça vous intéressait?
Ouais, j'avais 15 ans par là quand j'ai pensé à ça.
Mais qu'est-ce qui vous intriguait?
Comment c'était possible, quoi, des formes aussi complexes. Je me suis posé simplement comment les yeux se forment, là, les membres, tout ça. Enfin, on est compliqué, quoi. Hein. Donc, je vais t'intéresser par ces questions-là. Et à l'époque, évidemment, quand j'étais jeune, on savait rien du tout là-dessus. Mais alors, rien.
C'est vrai.
Aucune idée. Ah, non, aucune idée. Ouais. Évidemment, après, bon, j'avais 15 ans, donc après, j'ai oublié un petit peu, hein, toutes ces questions. Ça restait derrière un petit peu. Et puis, j'ai quand même décidé de faire de la biologie. De toute façon, je vais faire de la biologie. Donc, j'ai fait des études de biologie à la faculté des sciences à Paris. Ça s'appelait la fac des sciences à l'époque.
Ouais.
Puis j'ai fait de la génétique, de la biologie moléculaire, de la biophysique, de la physiologie, beaucoup de choses, c'est super. Hein.
Ouais.
De la physique aussi, de la chimie. Hein. Et c'était un moment génial, quoi. C'était une période, je pense que c'était plus, il y avait beaucoup moins de compétition, c'était plus détendu. Hein.
Plus léger.
Plus léger, ouais.
Ouais.
Plus léger, ouais. Donc on faisait ça vraiment, c'était complètement pour le plaisir, quoi. C'était vraiment, il n'y avait pas de souci, en fait, de, bon, je savais pas si je trouverais un poste au CNRS, hein. Il n'y en avait pas beaucoup déjà,
ouais.
Hein. C'était quand même difficile,
mais ça vous préoccupait pas, au fond?
Non, je faisais de la voile en même temps, donc je me disais, soit je fais de la voile, soit je fais de la recherche.
Ouais.
C'était une période très agréable.
Et finalement, vous avez fait les deux. De la recherche et de la voile et du bateau.
Exactement.
Hein, parce que vous avez réussi à combiner les deux. On verra, on parlera de Tara Océan avec vous dans quelques instants. C'est-à-dire que vous portez quand même un regard assez critique sur le monde de la recherche aujourd'hui, mais alors c'est pas très réjouissant pour les années qui viennent, puisqu'on se projette beaucoup dans l'avenir dans cette émission.
Je suis pas critique sur les scientifiques, enfin un petit peu sur certains scientifiques, mais surtout je suis très critique sur la façon dont l'administration gère la science. C'est pas seulement une question de financement, c'est l'ignorance totale justement de la nécessité de cette liberté absolue dont ont besoin les chercheurs.
Mais justement, comment est-ce qu'on pourrait à nouveau insuffler de la légèreté
à... Je pense qu'il faudrait sortir de cette notion de compétition permanente, c'est-à-dire qu'on met les gens en compétition les uns avec les autres. Ça marche pas comme ça, en fait. C'est la science.
On trouve moins bien dans ces conditions-là, selon vous?
Moi, je pense qu'on trouve peut-être plus efficacement des choses assez évidentes à trouver. Mais on suscite beaucoup moins l'originalité, la créativité. Parce que les gens ont peur. Et donc, ils choisissent des terrains de recherche qui sont plus sûrs et donc, disons, moins créatifs. Quoi.
Ouais. Ouais. C'est pas très réjouissant pour la conversation qu'on va avoir avec les deux jeunes chercheurs dans la seconde partie.
Ils ont,
hein.
Eux, ils ont un peu la chance, quelque part, de finalement d'être... je crois que Tara Océan, ça donne une certaine protection, justement,
ouais.
Qui va leur permettre de faire des choses, j'espère, hein,
ouais.
Un peu plus... Mais c'est vrai que dans le système classique, c'est très, très dur. Ouais.
Dans les années 80, lorsque vous avez vraiment commencé vos travaux de recherche, quelles étaient les grandes questions posées par la biologie cellulaire, justement, Éric Arsenti? Vous dites, à l'époque, on connaissait pas grand-chose.
Hein. Justement, les
qu'est-ce
grandes
qu'on
questions...
essayait de découvrir?
Ce qu'on essayait de découvrir, c'était d'abord la composition moléculaire des cellules,
ouais.
De quel type de molécules il y avait dans les cellules, de caractériser ces molécules.
Donc, il y a 30 ans, on n'en savait rien?
On savait très peu de choses. Enfin,
c'est
on
fou.
Connaissait quand même... On avait découvert le code génétique, hein, la structure du code génétique.
Ouais.
Au niveau du génome, on connaissait pas mal de choses. On commençait... Bon, il n'y a pas de séquençage encore, mais on commençait à faire du clonage de gènes, des choses comme ça, donc on connaissait un peu les génomes, mais comment les cellules fonctionnent, on connaissait relativement peu de choses. Alors c'était juste le début, en fait. Hein.
Ouais.
C'était le début de la découverte des structures intracellulaires, de tout le système membranaire dans les cellules, du cytosquelette.
C'est quoi le cytosquelette?
Le cytosquelette, c'est tout un tas, justement, il y a des microtubules, des microfilaments, c'est tout un tas de structures filamenteuses.
Mmh.
Qui détermine justement la forme des cellules, qui organise les cellules et qui leur permet de se diviser, de bouger. C'est ce qui permet aussi aux muscles de se contracter, etc. Donc il y a tout un tas de choses comme ça au niveau moléculaire. Il fallait découvrir les molécules.
Alors vous, qu'est-ce que vous avez découvert justement dans ce vaste monde de la biologie cellulaire et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes récompensé par les plus grands prix?
Moi j'ai découvert, en fait ce que j'ai participé à la découverte des molécules du cycle cellulaire, du mécanisme de la division cellulaire, donc
ouais.
De la régulation de l'horloge cellulaire.
Ce qui est absolument essentiel au vivant.
Oui, enfin, et ça, on savait rien quand j'ai commencé. Moi, c'était fabuleux pour moi parce que quand on a commencé à travailler là-dessus, on voyait bien qu'il y avait une horloge, hein. Il y avait des observations phénoménologiques, mais on connaissait aucune des molécules. Donc, j'ai participé à ça. J'ai beaucoup participé là-dedans à la compréhension de qu'est-ce qui détermine la temporalité, donc quand les cellules se divisent, quand elles se divisent pas, etc., au niveau moléculaire. Et puis après, je me suis intéressé en parallèle donc au cytosquelette, aux microtubules et aux fuseaux mitotiques. Et donc j'ai découvert comment les chromosomes induisent l'assemblage de cette structure qui permet aux cellules de distribuer leurs chromosomes quand elles se divisent.
Donc vous avez été un vrai pionnier dans ce domaine-là quand même.
Ouais, j'ai eu de la chance en fait, je me suis retrouvé, vous savez, je pense dans la recherche, évidemment il faut avoir de la créativité, mais il faut aussi être au bon endroit au bon moment. Et je suis passé dans les bons labos au bon moment pour avoir les bonnes idées et les moyens aussi de travailler sur ces questions-là.
Vous avez bourlingué un petit peu d'ailleurs, hein.
Ouais, ça s'est passé à Paris en partie, à l'Institut Pasteur, après aux États-Unis, à San Francisco, à l'Université de Californie. Puis après, je suis parti à l'EMBL. Donc l'EMBL, ça a été vraiment génial parce que j'ai...
Mais c'est votre labo, ça?
C'est mon labo. Hein.
C'est vous qui l'avez monté?
Ah non. J'ai pas monté l'EMBL.
Le département dans lequel vous travaillez?
J'ai monté le département, j'ai réorienté, disons, le département de biologie cellulaire vers la biophysique. Donc j'ai créé un département de biologie cellulaire et de biophysique là-bas. Mais l'EMBL, c'était créé bien avant moi. C'était un peu comme le CERN, hein. C'est une grosse structure.
Ouais. Et le fait d'avoir eu ce contexte particulier, ça favorise justement l'émergence de grandes découvertes, selon vous? Il y a vraiment un contexte qui fait qu'on peut travailler et découvrir des choses importantes en
absolument
science.
Je pense que d'abord de bouger, hein, je pense que c'est très important. Si j'avais pas bougé, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. Le fait de s'exposer à des laboratoires différents, on apporte des choses, ils vous apportent des choses. Et puis le MBL aussi, c'est un laboratoire fabuleux, justement parce qu'il y a une sorte de financement récurrent et on est totalement libre. Donc,
malheureusement, ça se passe pas en France.
Non, pratiquement plus aucun pays. Il y a très peu de pays où il y a des financements comme ça. Maintenant, c'est tout sur contrat. Et je pense que cette notion de contrat pour faire de la recherche, c'est totalement absurde. Enfin, ça marche pas, quoi. C'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. Mais c'est fou parce que cette discussion qu'on a aujourd'hui, qui revient beaucoup dans vos propos, hein, sur la façon de faire de la recherche, on l'aurait pas eu forcément il y a 20 ans. On aurait parlé purement de nos recherches, sans aucune inquiétude d'un contexte qui pénalise un peu le chercheur.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a 20 ans, il y avait un financement récurrent dans les labos. Les labos avaient un financement propre, ce qui n'est plus le cas. En Allemagne, il y a encore ça, le Max Planck a ça. En Angleterre, il y a un peu ça aussi avec le Wellcome Trust. C'est pas public, mais c'est de l'argent privé. Mais en France, on manque totalement de ça. Mmh.
Alors, quelles sont les questions aujourd'hui, alors pour le coup en 2016, que se pose la biologie cellulaire à
Il y a en partie, on continue à avoir besoin d'identifier un certain nombre de molécules et comment elles interagissent, etc. Et il y a une grosse partie de la biologie cellulaire qui se tourne plus vers la physique maintenant, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, la physique statistique un peu, comment le comportement collectif des molécules, comment les réseaux d'interaction entre ces molécules, justement génèrent les formes et les fonctions cellulaires. Donc ça devient plus de la vraie compréhension. C'est-à-dire qu'on n'a pas, tout le XXe siècle a été beaucoup de la description et de l'identification, un début de compréhension. Mais maintenant, on est vraiment dans la compréhension profonde du fonctionnement du vivant par rapport à la physique, quoi.
D'où l'intérêt de croiser des disciplines aussi.
C'est pour ça que je l'ai fait. C'est parce que c'est cet aspect-là qui m'a intéressé. Je pense que ce qu'on a fait à l'EMBL, c'est assez pionnier, effectivement, dans ramener ensemble des gens qui font de la physique statistique, de l'imagerie, de la génétique et de la biologie cellulaire.
Quelle est la question pour laquelle vous aimeriez vraiment avoir une réponse? Et que vos jeunes chercheurs auront peut-être
Je pense qu'une des choses qui est très importante, c'est de comprendre les principes qui gouvernent l'émergence de fonctions dans les cellules, l'auto-organisation. Donc, qu'est-ce qui était la base de l'auto-organisation des molécules? Comment on passe du niveau moléculaire au niveau de l'échelle de la cellule? Il y a un changement de taille, il y a un changement d'activité et de fonction. C'est qu'on passe de l'activité de molécules à des vraies fonctions. On passe des molécules à la division cellulaire ou des cellules à la pensée. Vous voyez, il y a des transitions d'échelle comme ça. Et c'est ces transitions qu'il faut essayer de comprendre. Et ça, c'est pour ça que je pense que toutes ces questions sur les réseaux d'interaction, l'auto-organisation, c'est très important. Ça, c'est une chose. Et un petit peu dans le même genre, mais à une autre échelle, je pense qu'il y a une grande question qui est restée complètement oubliée de la biologie, c'est l'origine du code génétique.
Ah oui.
Parce que on l'a très bien décrit, le code génétique, mais on comprend absolument pas comment il a commencé. Et c'est aussi un problème de boucle d'auto-organisation, parce qu'il y a l'ADN qui contient l'information, qui conduit à la fabrication de protéines, mais il faut des protéines pour répliquer l'ADN et pour que les protéines soient synthétisées. Donc il y a tout un phénomène de boucle là, qui n'a absolument pas compris.
Ça, c'est formidable, c'est réjouissant d'avoir questions.
Il y a plein de choses à comprendre.
Parce que c'est motivant aussi pour la nouvelle génération qui arrive, avec laquelle vous travaillez, donc il y a cet échange aussi qui fait qu'on aura peut-être des réponses dans
les décennies. Et la dernière question, encore si j'ai une minute, je pense que c'est l'évolution, c'est-à-dire que c'est l'évolution des écosystèmes, en particulier dans les océans, donc c'est ce qui a introduit un océan un petit peu, c'est quand le code génétique a commencé, on pense qu'il y avait une diversité relativement faible des organismes assez simples, des bactéries, quelque chose comme ça. Et puis après, il y a eu l'émergence de toute cette diversité. On pense à l'évolution souvent en phénomène de sélection naturelle, mais c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est qu'est-ce qui a généré de la complexité, la complexification de la vie au cours de milliards d'années.
Et ça a commencé quand, le code génétique, alors?
Il y a au début de la vie, il y a 4 milliards d'années à peu près, 3,8 millions ou 4 milliards d'années.
Éric Arsentier, l'autre grande affaire de votre vie scientifique, ce sont les recherches environnementales sur les océans, justement. Mm-hmm. On pourrait d'ailleurs avoir des réponses à ces questions que vous venez d'évoquer à l'intérieur des mers.
Je pense, parce que la vie a probablement commencé dans l'eau, en tout cas dans les océans. Et donc... je pense que c'est très intéressant de ce point de vue-là.
Oui. Le plancton, c'est évidemment absolument essentiel à ces questions. On va en parler d'ailleurs dans un instant avec l'un de vos invités, jeune chercheur. Mais j'aimerais quand même vous faire écouter un document de 1980. C'est la voix de Paul Bougis, qui à l'époque était directeur du Centre de biologie marine à Villefranche-sur-Mer et qui expliquait à Sylvie Andreu de France Culture la difficulté justement d'étudier le plancton. C'est les années 80.
Une agression contre le plancton se verra beaucoup moins facilement, puisque le plancton est très difficile à observer. Quand il s'agit d'animaux du fond, on va les prélever, on les prend sur le fond, c'est facile relativement. Et on sait qu'on a pris par exemple tous les animaux d'un mètre carré. Tandis que pour le plancton, prendre des animaux d'un mètre cube, ça ne veut pas dire grand-chose. Étant donné que d'un mètre cube à l'autre, à 100 mètres de distance ou un kilomètre de distance, les variations sont considérables. Autrement dit, pour avoir une idée de la bonne santé du plancton dans une... zone importante comme la mer Ligure, qui est donc entre nous et la Corse, devant Villefranche, il est nécessaire d'avoir des études très importantes faites en continu et de les traiter par des moyens mathématiques très élaborés. Et ceci, on commence seulement à savoir un peu le faire et on n'a pas encore de base très sûre pour dire où on en est, voyez. Et je crois que ceci, il faut faire attention, c'est qu'il peut y avoir déjà des dérives qui commencent et on ne le sait pas parce qu'on manque de recul.
Voilà, 1980 et des propos qui sont intéressants parce que justement vous avez participé à la consolidation de ces recherches sur la biologie marine.
Il posait exactement la question à laquelle on a essayé de répondre avec Tara et c'est exactement ça, c'est-à-dire que alors avec Tara on n'a pas répondu à la question de façon temporelle, mais plus en essayant d'échantillonner, d'avoir une idée globale de
ratisser large,
Voilà.
On imagine un énorme filet,
de ratisser très très large et en se disant si on arrive à avoir un échantillonnage relativement exhaustif, pas complètement évidemment, mais relativement exhaustif des océans, on pourra faire évidemment utiliser les mathématiques, la bioinformatique, puisque ça s'est beaucoup développé depuis, pour essayer de faire des modèles, justement, qui nous permettent de voir comment ces écosystèmes peuvent évoluer avec le changement climatique, avec la pollution, etc.
On va en parler justement dans un instant. Cette idée de Tara Océan, donc cette goélette qui part sur les océans du monde, elle est née comment, cette idée, dans votre tête?
Pour moi, c'était la voile, en fait. Comme j'aimais beaucoup faire de la voile, j'ai lu le livre de Darwin, Le Voyage du Beagle, dans les années 95, et je m'étais dit, ça serait bien de refaire un voyage comme ça.
Bel inventaire.
Et puis, ça a été une longue histoire, mais c'est venu comme ça, C'est un petit peu une idée romantique qui s'est transformée en quelque chose de très organisé.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce Chercheur d'avenir.
Suddenly I'm woken by a vision of your blue eyes, so lovely. And suddenly you're back with me over hills and valleys deep, you find me. Into the I fear the worst. Have we been doomed to die? Oh, and suddenly, have I been cursed to live alone this life? I am waiting, all on my own. I'm waiting for you to come home. I'm waiting.
Suddenly, c'était Alani dans Chercheurs d'avenir. Éric Carcenti, biologiste moléculaire, médaille d'or du CNRS, donc aujourd'hui dans Chercheurs d'avenir, et donc cette seconde partie de l'émission qui est une discussion à bâton rompu avec deux jeunes chercheurs avec lesquels vous travaillez. Bonjour à vous, Lionel Guidi et Sébastien Collin.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue. Lionel Guidi, vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer. Et puis Sébastien Collin, vous êtes chercheur à Roscoff, où vous développez des méthodes d'imagerie pour l'observation à haut débit des micro-organismes planctoniques. On va expliquer ce que c'est dans un instant. Comment est-ce que vous avez croisé la route d'Éric Carcenti, tous les deux, Sébastien Collin?
Oui, pour ma part, c'était au tout début du projet Tara Océan. On a commencé à initier en fait ces thématiques d'imagerie à ce moment-là, en fait, assez tôt dans le projet.
Vous êtes partis en mer ensemble?
Et donc, on a eu l'opportunité, effectivement, d'embarquer ensemble. Et je crois que la première fois, c'était sur le leg, un des legs les plus durs de l'expédition, entre Buenos Aires et Ushuaia. On a eu le droit à quelques belles tempêtes.
C'est vrai? Vous avez partagé ces souvenirs ensemble?
Ah oui, oui, c'était très bien.
Donc, vous avez donné beaucoup de sœurs pour la science.
Très physique.
Oui, c'est ça.
Oui, pour ma part, c'était la première expérience en mer et sur un bateau et de ce type-là. Et c'était assez sympathique.
Ah oui, pas mal comme bateau. Alors, effectivement. Lionel Guidi, pour votre part.
Moi, c'est un petit peu plus tard. C'est au niveau plus du moment où les données sont revenues à terre et où il a fallu les analyser. Donc, j'ai commencé à travailler dans le groupe à partir de 2011. Mm-hmm. Et c'est au cours de réunions et ensuite d'autres réunions, parce qu'on a beaucoup fait de réunions de travail,
ouais,
qu'on a eu pas mal d'occasions d'échanges et d'ouverture de discussions sur des thématiques très, très transverses,
ouais,
très multidisciplinaires. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est tous rencontrés. Bon, c'est juste une toute petite représentation de ce que...
Alors, c'est ça que j'ai demandé, effectivement, aussi à Éric Carcenti. Ça, ce sont deux jeunes chercheurs que vous avez vraiment eu envie de nous présenter. Vous avez beaucoup d'étudiants, d'abord, et puis ensuite de chercheurs, ensuite, qui travaillent avec vous.
Dans Tara Océan, ils ne travaillent pas directement avec moi, ils travaillent avec leurs directeurs de recherche, mais... Il y a une vingtaine de directeurs de recherche, de coordinateurs dans Tara Océan, et je ne sais pas combien il y a de gens qui travaillent en tout, mais ça doit bien faire 200 personnes,
ouais,
à peu près.
Ouais. Ouais.
Donc tous avec des disciplines particulières,
voilà.
Pour
mais
ces recherches.
Qui interagissent tous plus ou moins. Ouais.
Ouais.
C'est ce qui en fait un programme extrêmement réjouissant, hein. C'est ce côté un peu interdisciplinaire, là où tout le monde se rend compte et est obligé de faire un pas vers l'autre. Et c'est vraiment enthousiasmant.
Ouais. Et ça justifie aussi toutes les données que vous avez à traiter, parce que c'est ça aussi, Tara Océan, c'est le nombre d'échantillons que vous avez récoltés et sur lesquels vous travaillez aujourd'hui, et pour de nombreuses années. Ça donne du travail aussi aux chercheurs pour un bout de temps, là. Hein.
Je crois que c'est l'un des côtés exceptionnels de cette campagne, c'est d'avoir réussi quand même à générer en fait des jeux d'échantillons qui soient cohérents, que ce soit pour la physique des océans, pour la génétique, pour l'observation des organismes.
Alors Sébastien Collin, quels sont vos travaux exactement? Vous avez parlé d'imagerie pour les organismes microscopiques. Il faut nous en dire plus là.
Hein. En fait, c'est une idée en fait qui émane un petit peu de Eric et de ses activités à l'EMBL, en fait, où ils ont des développements d'imagerie extrêmement poussés. Donc, on a eu l'idée en fait d'adapter en fait ces méthodologies d'observation. aux échantillons marins. Donc l'idée, c'est de les voir de manière un peu plus approfondie, en trois dimensions, pour pouvoir les caractériser de manière plus approfondie.
Ouais. Donc là aussi, ce sont des nouveaux outils dont on bénéficie et qui ont complètement révolutionné aussi ce domaine.
Je peux pas parler de révolution à l'heure actuelle encore, parce qu'on est juste en train d'analyser les premiers résultats qui sortent de cette nouvelle méthodologie. Ouais. Mais c'est assez prometteur.
Éric Arsenti, quel œil vous portez, vous, justement, sur ces outils dont s'occupe Sébastien Collin?
Ouais, c'est très important parce que, en fait, c'est pas seulement, c'est-à-dire que là, on peut voir ces organismes en trois dimensions avec des méthodes de fluorescence, donc on voit plein de choses à l'intérieur.
C'est la première fois qu'on les voit comme ça?
Je crois que c'est une des premières fois où c'était fait ça.
Oui, ça a déjà été en fait utilisé de manière assez ponctuelle, mais le fait de le faire de manière aussi systématique, je pense que c'est assez novateur.
Et il y a surtout un aspect de quantification qui permet de quantifier les espèces un peu comme avec la génomique, hein, c'est ce que vous faites. Et on arrive presque à avoir le même genre. Enfin, on n'en arrive pas au détail qu'on a en génomique, mais on arrive à avoir une quantification de la distribution des organismes extraordinaire en imagerie.
Oui.
Et aussi des interactions entre les organismes, si tu veux en dire un mot, je sais pas.
Oui, c'est ça qui est assez exceptionnel, en fait. Assez naïvement, en fait, on va considérer que les organismes vivent tous chacun dans leur coin, mais en fait, quand on les regarde vraiment, en fait, dans leur intimité, avec ce type d'instrument, on se rend compte qu'il y a énormément d'interactions, il y a une intimité très proche entre plusieurs espèces, et on voit vraiment même quasiment l'évolution à l'œuvre. C'est-à-dire que l'acquisition de la photosynthèse au cours de l'évolution s'est faite par l'acquisition de bactéries, et on retrouve ce même type d'acquisition en train de se faire dans des organismes contemporains.
Est-ce que certains organismes vous intéressent plus que d'autres? Justement, Sébastien Collin.
Pour ma part, j'ai un petit coup de cœur pour les radulaires.
C'est-à-dire? Alors faites-nous partager ce coup de cœur, s'il vous plaît.
Parce qu'en fait, ils sont capables de fabriquer des formes qui sont somptueuses, hein, tout simplement exceptionnelles.
Donc là, c'est l'esthétique aussi qui vous touche, vous?
Bien sûr, parce que moi, quand je passe mon temps à observer, en fait, j'ai une position assez privilégiée dans le consortium Tara Océan. Parce qu'en fait, je suis un des chercheurs qui a un accès à cette observation avec des instruments fabuleux. Et donc, en fait, on est sous le charme permanent des formes qui sont présentes à cette échelle de taille.
Donc, vous avez vraiment les mains dans le cambouis et ces organismes dont on parle ensemble, vous les voyez en fait directement.
Voilà. Hein, non seulement on les voit, puis on peut même rentrer à l'intérieur, vraiment rentrer dans leur intimité.
Ouais. Est-ce que justement, en observant ces organismes marins, on peut retracer l'histoire du vivant et justement répondre à toutes ces questions mystérieuses sur la façon dont les choses ont évolué au fil des millions et milliards d'années?
On a une photo en fait de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc on peut effectivement extrapoler un petit peu sur comment les choses ont pu se passer par le passé. Mais
parce que vous parliez d'organismes contemporains, mais c'est-à-dire quoi? Qui sont très différents de ceux qu'il y avait justement il y a des millions d'années, ou au fond c'est une évolution beaucoup changé?
À cette échelle de taille, ça fait partie de la diversité auquel on a accès à travers les fossiles,
ouais,
qui nous donnent en fait cette information sur ce qui s'est passé dans les temps géologiques. On a simplement en fait des traces fossiles, des organismes qui sont capables de produire des formes dures, des formes minérales pour la plupart. Et donc c'est les seuls qu'on puisse comparer vraiment. Et la diversité est bien plus vaste.
Ouais.
Donc, voilà, on sait effectivement qu'il y a des choses qui ont disparu, d'autres choses qui ont évolué, mais on a quand même une information assez réduite sur ce qu'il y avait avant.
Ouais. Éric Arsenti, c'est quoi ce qui vous intéresse le plus au fond? C'est l'inventaire d'abord, c'est de pouvoir répertorier toutes les formes justement d'organismes actuellement sur Terre?
Non, l'inventaire, l'inventaire c'est essentiel, hein, mais ce qui est important c'est d'essayer d'utiliser ça pour comprendre quand même l'évolution. Moi, je pense que au-delà de ce que tu dis, on pourra, parce que pour l'instant, on voit juste les formes qu'on a maintenant, mais la génomique nous donne la position de beaucoup de ces organismes dans l'arbre de la vie.
Ouais.
Et il y en a qui sont très anciens. Ce qu'il faut qu'on réussisse à faire maintenant pour pouvoir progresser de ce point de vue de l'évolution, c'est de réussir à corréler la génomique avec l'imagerie. Donc ça, c'est un des plans qu'on a, qu'on veut faire, c'est de voir justement quelle est l'ancienneté d'un certain nombre d'organismes qu'on voit à l'œil comme ça.
Oui, je pense qu'effectivement, une des thématiques d'avenir pour les développements sur lesquels on travaille, c'est effectivement de faire converger l'information génétique qu'on peut avoir de manière massive sur les échantillons et l'observation. Donc en fait, on a quelques pistes de travail pour aller s'orienter vers là.
Éric Arsenti, il y a eu des grosses surprises dans les filets qui ont été remontés justement avec Tara Océan. C'est vraiment des organismes dont on ignorait même jusqu'à l'existence.
Oui, ça, il y en a plein. C'est-à-dire que, alors, au niveau de l'imagerie, j'ai du mal à me rendre compte parce que je connais pas très bien tous ces organismes, mais je sais pas si t'as vu des formes particulièrement inconnues ou.
Sébastien Collin.
Je crois que vous avez trouvé.
Hein. Ouais, en fait, moi, ce qui me fascine le plus, c'est surtout de les voir interagir. Oui, il y a certainement des choses inconnues qu'on a visualisées. Pour certains, en fait, on peut être déjà décrits.
C'est ça. Ou en cours d'identification.
Voilà. Et puis. Et puis c'est difficile en fait d'avoir l'expertise sur l'ensemble de la diversité qui est présente dans les échantillons. Donc je peux pas vous affirmer quoi à chaque fois qu'on a eu de la nouveauté ou pas. Certainement.
Bon,
parmi tout ce qu'on a. En tout cas, au niveau de la génomique, on sait que 90% par exemple de ces organismes n'étaient pas connus quoi.
90%. Ouais. Donc c'est énorme.
C'est énorme, oui.
Ouais. Lionel Guidi, alors vous, à quoi vous intéressez exactement? On parle, quand on évoque votre parcours et vos recherches, de pompes biologiques, c'est ça? Et de cycle du carbone?
Oui, c'est ça. Donc ouais. Moi, je suis océanographe et je m'intéresse en partie à la pompe biologique. Donc la pompe biologique, c'est un processus biologique, comme son nom l'indique, qui, par le biais d'organismes marins, récupère du CO2 dans l'atmosphère et le transfère vers le fond des océans. Donc ça contribue au cycle du carbone, mmh. qui est un des mécanismes de la machine climatique.
Donc c'est tout ce mécanisme justement que vous apprenez à mieux comprendre?
Oui, donc au sein de Tara, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vraiment replacer la biologie au sein de ce cycle et de cette pompe biologique. La plupart des études qui avaient été faites au niveau de certains organismes clés, des organismes très emblématique de la pompe biologique.
Oui.
Et donc avec l'inventaire total du vivant, ou quasi total du vivant qu'on a pu faire au cours de la campagne, on a essayé de remettre en place un catalogue de ces organismes qui étaient impliqués dans la pompe biologique et de regarder comment est-ce qu'ils variaient et que c'était associé dans l'espace. Parce que dans Tara, on n'a pas des données de temps, comme oui. on a pu discuter avant, c'était plutôt des données spatiales. Donc c'est à l'échelle du globe, on a essayé de mettre ça en évidence. Et c'est de là qu'on parle un peu de Facebook, le Facebook du plancton.
Ah oui.
Parce que ce qu'on a essayé d'analyser, c'est les relations entre les organismes, lesquels étaient co-présents ou systématiquement.
Ah oui, donc c'est quasiment le réseau social en fait des organismes. Ça. C'est ça, c'est cette idée.
Donc, ça nous a donné une image sociale du plancton qu'on peut mettre en relation avec des processus biogéochimiques qui nous intéressent lorsqu'on étudie le climat.
Donc c'est quoi le plancton? C'est une grande communauté d'amis
ou d'ennemis, partenaires. Mais c'est une communauté très complexe dans laquelle il faut arriver à trouver un moyen d'analyser cette complexité et de la réduire pour que nous, on puisse la comprendre.
Ouais, Eric Carcentier, c'est amusant cette analogie quand même.
Ouais, hein. Vous savez, les réseaux, le principe d'un réseau, c'est générique. Hein. Donc, les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose que les réseaux de ces organismes. Ils interagissent beaucoup, hein, physiquement, mais aussi par des signaux probablement qu'on ne connaît pas bien. Mais,
Alors c'est ça, parce que toutes ces interactions, j'imagine qu'elles sont extrêmement nombreuses et qu'on est encore très loin de tout connaître.
Le type d'interaction, les grandes interactions, on en connaît la plupart. Mmh. Par contre, de les identifier deux par deux systématiquement, ça, effectivement, on en connaît très très peu.
Ouais.
Donc le but, c'est de pouvoir essayer de reconstituer de proche en proche ou d'aller analyser la globalité de ce réseau-là pour trouver les interactions qui vont être clés par rapport à un mécanisme particulier.
Ouais. Lionel Guidi, on entendait tout à l'heure donc Paul Bougies hein, du Centre de biologie de Villefranche-sur-Mer dans les années 80, et vous êtes de Villefranche-sur-Mer, justement.
Ouais, je suis né dans les
et c'est
80.
La question du plancton, donc ça doit vous amuser, vous, parce que vous êtes vraiment de la jeune génération. Le bond en avant en 30 ans, 36 ans, là, maintenant.
Ce qui est assez marrant, c'est qu'au niveau des idées, les idées, au final, étaient déjà là. Qui est arrivé, c'est la donnée. La donnée est complètement nouvelle.
Ouais.
La quantité de données aussi est beaucoup plus importante qu'il était possible d'obtenir dans les années 80. Et c'est les méthodes informatiques qui ont été mises en place aussi pour pouvoir analyser ces données.
Ouais.
Et donc au laboratoire de Villefranche, très tôt, dans les années 80, il y avait des chercheurs déjà spécialisés en analyse numérique qui ont commencé à analyser ces jeux de données-là. Et donc c'est un peu dans cette même mouvance qu'on a continué à travailler en développant de nouvelles méthodes et en intégrant à la fois la chimie, la physique et la biologie.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre également dans ces travaux, dans ces mécanismes que vous décrivez, ce sont les enjeux aussi pour la question climatique.
Alors, c'est un des enjeux. Après, il y a d'autres enjeux au niveau, par exemple, de la chaîne alimentaire, des poissons, des plastiques, etc. Au niveau des océans, il y a beaucoup d'enjeux au niveau des océans. Au niveau climatique, c'est plus de savoir exactement quel est le rôle de ces organismes dans le climat et quel est le rôle du climat sur ces organismes.
Oui.
Quel est l'impact qu'aura le changement climatique sur ces communautés. Pour connaître cet impact-là, il va falloir déjà connaître bien la communauté et sa plasticité par rapport à des changements particuliers.
Donc là aussi, beaucoup de complexité dans ces questions, évidemment, parce qu'il y a plein de facteurs qui
exactement,
interviennent. Ouais. Et vous êtes conscient de travailler vraiment sur une question cruciale aujourd'hui, en tout cas à notre époque, et qui va aussi concerner cette génération-là de chercheurs qui arrivent.
Pour moi, c'est une des questions clés. Bon, c'est une question sociétale, c'est une question qui est dans les médias, c'est une question qu'on voit un peu partout. Je pense que la conscience collective commence à être présente. Les données commencent aussi à arriver pour pouvoir vraiment analyser tous ces phénomènes.
Oui.
Ce qui, à mon avis, à mon sens, manque un peu, c'est justement cet aspect très multidisciplinaire qui, pour moi, a été mis en place un petit peu au sein de Tara. C'est la première fois que je rencontrais ça au cours de mon parcours de chercheur, où on peut à la fois discuter avec des gens qui font de l'évolution, de l'écologie, de la bioinformatique, de l'informatique, des mathématiques, et essayer de mettre tout ça en commun pour arriver à se pencher sur une question commune. Et c'est quelque chose qui prend énormément de temps parce que ça demande aux chercheurs de différentes disciplines déjà de parler le même langage. Ça paraît stupide, mais c'est vraiment pas simple.
Vous avez entendu hein, tout à l'heure dans la première partie le tableau plutôt sombre brossé par Eric Carsanti sur le monde de la recherche aujourd'hui. Franchement, ça donne pas très envie de s'engager. Alors vous qui êtes concerné au premier chef, qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Collin ? C'est dur d'être un jeune chercheur aujourd'hui et de se projeter justement dans l'avenir ?
Alors les questions sont toujours enthousiasmantes. Elles n'ont pas changé, elles ont un peu évolué, mais elles sont toujours enthousiasmantes. C'est vrai que le contexte de la science contemporaine en France, là, est un peu compliqué.
Mais qu'est-ce qui vous fait avancer, alors, dans ce contexte difficile, précisément ?
Voilà, parce qu'on n'arrive pas à lâcher ces questions-là, donc on est un peu viscéralement attaché, donc on y va quand même. Malgré qu'effectivement, on puisse faire de la recherche sous des contrats assez courts, qui empêchent d'avoir, en fait, une visibilité ou d'engager des choses un peu ambitieuses. C'est vrai qu'on a une petite asphyxie administrative aussi, mais malgré tout, on est là.
C'est un euphémisme. C'est ça. Une petite asphyxie. Hein. Lionel Guidi, pour vous aussi, pareil, qu'est-ce qui vous fait vous accrocher là ?
Bah, moi, j'ai la chance d'avoir un poste au CNRS déjà, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de jeunes chercheurs. Déjà, quand on passe cette transition-là de passer du contrat au poste, il y a une certaine liberté qui nous est permise, une liberté d'esprit, une espèce de tranquillité qui nous fait aussi peut-être se permettre d'avoir un petit peu plus d'imagination. On a moins d'obligations de rentabilité à l'année, quoi. Après, ce qui nous fait continuer, c'est vraiment les questions et c'est les rencontres, c'est la science de façon générale qui est toujours enthousiasmante. Ouais.
Bon, ben ça aussi, c'est enthousiasmant de voir qu'il y a cette génération qui s'accroche quand même malgré le contexte. Hein, Eric Carsanti,
oui. Quelque part, en fait, c'est vrai que quand on voit en fait l'élan scientifique qui a pu avoir lieu en fait avec le programme Tara Océan, en fait, on se rend compte qu'il y a toujours la possibilité de faire des choses.
Ouais. Eric Carsanti, est-ce que vous pensez que dans les prochaines décennies, les hommes auront vraiment à cœur de protéger les océans et plus largement toute la biodiversité de la planète ? Question cruciale qu'on n'arrête pas d'évoquer en permanence, mais est-ce qu'un peu de sagesse va vraiment s'installer dans les esprits?
J'espère. Enfin, on y travaille beaucoup avec Tara Expédition, justement. C'est une des choses qui intéresse le groupe de Tara, hein. Étienne Bourgois, Romain Tromblay, Agnès B. Et puis nous aussi. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'important. J'ai du mal à me rendre compte, en fait, parce que, si vous voulez, l'humanité, c'est tellement énorme maintenant. On est des milliards. Donc, on arrive à toucher quelques individus. En faisant des émissions comme ça, en parlant, en communiquant. Mais on a énormément de mal à se rendre compte de l'impact global qu'on peut avoir sur l'évolution de l'humanité. Hein. C'est tellement énorme que c'est un peu difficile de se faire une idée. Quoi. Finalement, c'est peut-être arrivé comme ça.
Merci beaucoup en tout cas tous les trois. Et puis écoutez, peut-être à bientôt pour partager d'autres de vos découvertes. Vous étiez nos invités aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Chercheurs de l'avenir. Merci.
Merci.
Merci. Merci.
C'est terminé pour ce numéro de Chercheurs d'avenir réalisé par Céline Hila. Merci à Lucie Sarfati pour la préparation du dossier, à Djoubaka qui signait la programmation musicale de l'émission, à la technique aujourd'hui Fabrice Desmaz. Vous retrouvez l'émission dans les pages du Point, comme chaque semaine. Passez un très bon dimanche et à la semaine prochaine sur France Inter.